18h sur Radio Campus Paris, tout de suite, c'est l'heure de Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter.
Bonsoir à tous et à toutes et soyez les bienvenus dans Déshabillez-moi, le striptease philosophique de Radio Campus Paris. Ce soir, nous vous proposons une émission un peu spéciale puisque nous allons nous intéresser à la formation des philosophes. Si ce sujet est récurrent dans Déshabillez-moi, c'est parce qu'il nous semble qu'en analysant la manière dont on forme les philosophes, on peut comprendre beaucoup de choses sur la place que la philosophie occupe au sein de la société. Quelle est la place de la philosophie au sein de notre monde actuel? N'est-elle pas souvent, trop souvent, réduite aux vieux grimoires que l'on range dans de vieilles et belles bibliothèques? Ou alors aux figures médiatiques telles que BHL, Onfray et tous les autres. Si vous nous écoutez régulièrement, vous aurez sans doute compris que nous défendons une philosophie accessible à tous. Pour nous, la philosophie n'est pas uniquement celle de Kant ou celle des philosophes en col blanc. Elle doit, pour être entendue, sortir des amphithéâtres et prendre place dans le monde qu'elle pense. On voyait naître il y a quelques années des cabinets de philosophie. On allait parler avec son philosophe comme on se confie à son psychologue. Si le métier a créé peu de vocations, il n'empêche que la philosophie trouve son renouvellement dans la pratique. La philosophie n'est plus uniquement analytique, elle est aussi devenue appliquée. Mais philosophie appliquée n'implique pas nécessairement la pratique de la philosophie comme métier. On pense la philosophie appliquée dans les universités, mais l'on instaure encore souvent une frontière inviolable entre la grande, la belle et la savante philosophie universitaire, celle des chercheurs, des professeurs, et une philosophie qui serait un peu moins noble, la philosophie appliquée, celle qui pense le monde tout en s'y impliquant. La philosophie a-t-elle le droit de devenir un moyen pour atteindre des fins qui lui sont extérieures? Cette frontière entre ces deux conceptions de la philosophie a été franchie par notre invité de ce soir, Sébastien Descours, créateur du master Étires, une formation professionnelle en éthique appliquée de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Athalie Anne Ventadour, étudiante en master Étires donc et déléguée de la promotion. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci à vous d'être venue aussi.
Merci à vous, c'est un plaisir de pouvoir assister à cette émission.
Alors si la philosophie peut penser l'entreprise, comment peut-elle s'y intégrer? Quel rôle la philosophie morale et éthique a-t-elle à y jouer? Recruterons-nous un jour les cadres d'une entreprise sur leur capacité à construire une réflexion philosophique? C'est à toutes ces questions et bien d'autres que nous essaierons de répondre ce soir dans Déshabillez-moi. Et vous?
Déshabillez-vous!
Alors Sébastien Descours, j'avais envie de commencer cette discussion par une question très simple. Pourquoi et à quel moment vous avez imaginé ce master Étires? Comment ça s'est passé?
Alors de manière très concrète, ça s'est passé autour de sculptures en acier, où j'ai rencontré un philosophe qui avait envie de faire bouger un peu les choses. Et de manière plus réflexive, j'accompagne en fait l'entrepreneurship et l'innovation depuis maintenant une trentaine d'années. J'ai été pendant 13 ans responsable du séminaire de création d'entreprises à HEC Entrepreneur. Et à un moment donné, on s'est aperçu que l'innovation allait tellement vite qu'elle construisait, elle pouvait construire un monde qu'on n'appréhendait pas au préalable, qu'il fallait des outils pour penser ce monde-là et savoir dans quel monde on allait s'inscrire. Et donc, avec Xavier Guchet, donc le co-créateur avec moi du master de Paris 1 à la Sorbonne, on s'est dit qu'on allait y aller sur la base de techniques pédagogiques relativement novatrices pour l'université, donc très concrètes, très terrain, emmener les étudiants dans les entreprises, aller pousser les entreprises à accepter effectivement cette injection d'un virus. Pour moi, des étudiants en philosophie sont véritablement des virus, c'est-à-dire qu'ils transmettent une maladie qui est une envie de penser, une joie de penser, une énergie de penser, pour préparer ce monde qui vient et ce monde sur lequel on a tant de questions.
Alors qu'est-ce qui était le plus difficile, de convaincre l'université ou de convaincre les entreprises?
Ni l'un ni l'autre. En fait, la période était mûre. L'université nous a accepté, je dirais de manière un peu curieuse. Qu'est-ce que
J'imagine.
C'est que cet objet incongru? On envoie les étudiants directement dans les entreprises sur des missions réelles. J'insiste sur ce point, c'est que toutes les missions répondent à des questions qui sont réellement posées par les dirigeants, qui ont réellement l'intention et l'envie de s'interroger soit sur leur métier, leur entreprise, leur marché, le monde. Et donc, on s'intéresse à ceux qui font dans l'innovation, ceux qui sont dans les grands groupes, qui ont souvent d'énormes questions, puisque ce sont des très grandes collectivités, et puis à tous ceux qui s'occupent de la chose publique, organisations syndicales, organisations professionnelles, politiques, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'évolution du faire ensemble, du vivre ensemble, du faire société.
Donc l'idée, c'est que les entreprises vous contactent en disant « j'ai une mission à proposer à des étudiants, est-ce que vous pouvez trouver des étudiants qui seraient intéressés par cette mission ?»
Alors il y a une partie des entreprises qui viennent nous voir effectivement directement et de plus en plus, en particulier les grands groupes. Il y a une autre partie des entreprises, il se trouve que j'ai un réseau qui est extrêmement étendu sur tout ce qui est innovant en France, que je vais solliciter en leur disant « est-ce que vous ne pensez pas que, par rapport à ce que vous développez, il y a un intérêt ou pas à avancer ?» Ça a été le cas par exemple pour une société dans ce qu'on appelle les « civic tech », c'est-à-dire le lien numérique entre le citoyen et les administrations, où la question leur a été posée de savoir « mais qu'est-ce que vous allez faire au monde ? De quelle manière vous allez transformer la démocratie avec ces outils-là » Est-ce que ça vous dit d'aller se poser la question sur ce sujet-là ?
Donc dans cette formation, il y a évidemment de la formation pratique, des missions, et en même temps, on continue la formation des philosophes. Alors l'idée, c'est que peuvent intégrer ce master des étudiants qui émanent pas nécessairement de la philosophie, mais des sciences humaines plus largement, donc d'histoire, peut-être de sciences politiques, je sais pas, vous allez me le dire. Donc on essaie quand même de continuer cette formation des philosophes avec des cours de philosophie à proprement parler, tels qu'on pourrait les retrouver dans d'autres masters de philosophie plus classiques.
Alors, l'idée qu'on développe est autour de la philosophie action, donc c'est-à-dire qu'on mélange véritablement la pensée avec le faire, avec la prise du réel. Et donc, dans ce cadre-là, tout de suite, il nous est apparu important, effectivement, de mélanger les disciplines. C'est-à-dire, on a un gros trois quarts d'étudiants qui nous viennent de philosophie, et un quart d'étudiants qui viennent des sciences du management, de l'histoire, de la géographie, des sciences sociales. Ce qui est une richesse absolument extraordinaire, parce que quand on appréhende des problèmes à l'intérieur des grandes organisations, qu'elles soient des entreprises ou autre chose, on a besoin de pouvoir porter des regards avec différentes disciplines. En particulier, la formation met un focus extrêmement important sur les interviews. Donc grosso modo, entre 20 à 25 interviews par mission, c'est des interviews de 2 heures, donc c'est des interviews extrêmement en profondeur.
Ce que vous appelez interview, c'est comme des entretiens en sociologie, des choses un peu...
C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on prend un sujet en début de mission, on décrit en fait un périmètre de son propre écosystème. On va aller chercher les acteurs de cet écosystème-là, les penseurs de cet écosystème-là. Et les étudiants vont utiliser les outils de la sociologie pour aller interroger ces personnes qui évoluent dans cet écosystème et pouvoir en tirer une pensée, une réalité, et partir en fait de cette réalité pour construire ensuite une pensée philosophique. Et donc c'est cet échange qui est extrêmement nourrissant entre les outils de philosophie depuis 6-8 000 ans qui sont à la disposition de l'humain, et une réalité sociologique de terrain qui peut être une réalité économique, une réalité sociale, une réalité syndicale, une réalité politique, qu'on va aborder au travers de ce que les gens racontent. Alors j'en profite pour dire, moi j'ai une formule que j'aime beaucoup, c'est que la philosophie est à l'entreprise, à l'organisation, ce que la psychanalyse est à l'humain. C'est-à-dire qu'elle sert à dévoiler la réalité, à s'obliger à se poser soi-même des questions. Le philosophe n'est pas un juge. Le philosophe est une boîte à outils qui va offrir des outils d'analyse et de compréhension aux personnes avec qui il va travailler, sur la base donc de leur terrain. Et quand je dis ça, ça veut dire que grosso modo, quand on va rentrer dans une organisation quelle qu'elle soit, on va travailler sur 3 axes qui sont l'identité, le sens et l'intention de l'organisation auquel on s'attache. Et une fois qu'on a bien décrypté tout ça, on est capable de porter un regard, de dire « Ok, voilà un peu quel pourrait être notre conseil et notre valeur ajoutée philosophique par rapport à la question que vous vous posez. » Puisqu'on part toujours de la question de l'organisation qui est en face de nous.
Donc finalement, vous réhabilitez un peu une utilité à la philosophie, en tout cas dans le monde de l'entreprise. D'ailleurs, justement, à ce propos, j'ai choisi un petit extrait sur... Ben, vous avez certainement entendu parler de cette polémique, non, qui n'est pas d'ailleurs une polémique, mais cette politique au Japon de supprimer les sciences humaines et sociales des universités. On va juste écouter un petit extrait, puis on réagira juste après.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Vincent, ce matin, vous nous parlez d'une histoire incroyable. Au Japon, le gouvernement a décidé ni plus ni moins de fermer 26 universités de sciences humaines et sociales sous prétexte qu'elles ne sont pas assez utiles à l'économie du pays. Mais comment c'est même possible ?
Écoutez, c'est une énorme polémique effectivement qui a éclaté au Japon. Le ministre de l'Éducation vient en effet d'adresser une lettre officielle à 26 présidents d'universités en leur demandant, je cite, d'abolir ou de convertir les départements de sciences humaines et sociales pour favoriser favoriser des disciplines qui servent mieux la société. Entendez notamment l'ingénierie, les sciences dures, les sciences naturelles. Bon, voilà, les sciences humaines et sociales sont donc jugées inutiles, pas assez productives pour l'économie. L'affaire fait scandale, bien sûr, l'un des présidents d'université s'est insurgé contre la posture anti-intellectuelle du gouvernement qui veut évaluer l'apprentissage académique et les sciences en termes utilitaires. Les deux grandes universités les plus prestigieuses, celles de Tokyo et de Kyoto, se sont mis en rébellion. Elles ont décidé qu'elles n'appliqueraient pas cette directive. Bon, n'empêche quand même que 17 universités, quand même, elles ont décidé déjà de cesser de recruter les étudiants dans les départements de sciences humaines.
Tu feras informatique, Wolfgang. Il y a toujours eu pourtant au Japon, Vincent, des liens très forts entre les entreprises et les universités.
Ben oui, c'était même un peu la marque de fabrique du Japon. Ça a contribué au succès du Japon jusque dans les années 80. Et puis, il faut savoir que dans ce pays, les politiques de l'enseignement supérieur sont placées sous le contrôle d'un conseil pour la compétitivité industrielle dans lequel siègent pas moins de 7 grands patrons, autant de ministères et 2 présidents d'universités spécialisées dans les domaines de l'ingénierie et de l'économie. Je vous rassure, surtout pas de sciences humaines. Bon, et en même temps, cette décision, en fait, elle témoigne surtout d'une fébrilité certaine du pouvoir politique en ce moment. Ce pouvoir ne parvient pas à sortir le pays, un pays vieillissant, d'une méchante torpeur dans lequel le Japon est tombé il y a plus de 15 ans. Cet été, la croissance s'est même encore rétractée en dépit des politiques de relance extrêmement volontaristes conduites par le Premier ministre Shinzo Abe. Vous savez que celui-ci a donné même son nom à une sorte de théorie économique, les Abenomics, une sorte de thérapie de choc keynésienne avec un plan massif de relance publique pour l'équivalent de 175 milliards d'euros et avec une politique monétaire ultra accommodante de la Banque centrale qui ne cesse d'injecter de l'argent dans l'économie.
Et pourtant, ça marche pas vraiment. Hein.
Ben non, pas vraiment. On a cru voir un moment des signes de réveil de l'économie japonaise, mais non, elle vient de rechuter. Malgré la baisse de 30% du yen en 3 ans et puis la forte hausse de la bourse, eh bien les investissements restent limités, les salaires ne décollent pas. Le Japon demeure plombé, d'abord par sa démographie. Voilà un pays de vieux dont la population diminue sous le coup d'une natalité parmi les plus faibles du monde. Un pays plombé aussi par une dette effroyable qui dépasse les 225% du PIB. C'est à croire que dans ce pays, décidément, on achève bien les jeunes, les étudiants en sciences humaines comme tous les autres.
Vincent Giray du journal Le Monde dans le décryptage éco sur France Info.
Ça va pas fort pour le Japon apparemment. On remercie quand même nos collègues de France Info. Alors l'idée de cette chronique en fait sur le Japon, c'est de montrer que finalement on a du mal encore à concevoir comment les sciences humaines et sociales pourraient avoir une utilité dans le monde de l'entreprise, de l'industrie. Alors justement, vous, c'est un peu votre objectif aussi de réhabiliter un peu l'utilisation des sciences humaines dans tout ça, non ?
C'est qu'il n'y a pas d'opposition, en fait. Il se trouve que au Japon, qui est un pays que je connais un peu, où j'étais au mois d'octobre, ils ont une posture qui est actuellement une posture très volontariste et un peu provocatrice pour essayer de faire bouger le pays, ce qui est un choix politique, somme toute, sur lequel les universités ont beaucoup résisté et aujourd'hui ne sont pas du tout dans la tendance qui est décrite par le journaliste au cours du courbier que vous nous avez fait entendre tout de suite. Je crois que la réconciliation entre l'économique, ce qu'on appelle les sciences humaines, trouve une illustration extrêmement forte au travers des neurosciences aujourd'hui. C'est-à-dire que fondamentalement, on est en train de se recentrer sur l'individu. Qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux? De quelle manière est-ce qu'on peut les faire évoluer? Le Japon est confronté à un problème de vieillissement qui est extrêmement important, sur lequel la prise en charge du déficit cognitif et de l'évolution de la manière dont on peut traiter ce déficit cognitif est extrêmement en pointe par rapport à nous. Ils sont aussi extrêmement forts sur l'intégration des personnes âgées à l'intérieur de la société. Contrairement à nous, on a plutôt tendance à les repousser dans des endroits où on ne les voit pas. Eux les intègrent complètement dans la vie.
Ou les laisser à l'université. Mais...
par exemple. Et je ne crois pas que cette tension qui est décrite soit une tension qui soit réelle dans les fondamentaux de ce peuple qui est quand même d'une culture absolument incroyable et probablement d'une civilisation en avance de 20 à 30 ans sur nous. Je crois qu'au contraire, l'ensemble des Japonais aujourd'hui sont d'un niveau intellectuel qui est rare sur cette planète. Ils sont d'une paix vis-à-vis de l'autre, où ils intègrent au contraire l'ensemble des éléments de la spiritualité, les éléments de la sociologie, les éléments des sciences humaines. Je crois que tout ce pays avance dans cette voie-là. Après, la question effectivement est celle de l'utilité économique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mesurer ce qu'un philosophe, un sociologue, un anthropologue peut apporter à des entreprises. Et c'est là où Étirès a fait des découvertes qui sont assez étonnantes, c'est qu'aujourd'hui on regarde dans les grands groupes Et ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les grands groupes intègrent ces compétences-là. Pourquoi ? Parce que l'évolution des marchés, l'évolution des sociétés, l'évolution de la consommation est tellement rapide qu'il manque d'outils. Les outils du marketing ou les outils des statistiques sont très insuffisants pour pouvoir anticiper et prédire ce que vont être les marchés dans un futur proche, même très proche. Et là-dessus, ils ont besoin effectivement, évidemment pas de sorciers, puisque nous sommes sortis de ces générations-là, mais ils ont besoin de personnes qui soient dotées des outils capables de leur permettre d'anticiper leur future posture, qu'est-ce que c'est que leur société dans ce monde qui s'en vient, de quelle manière ils vont pouvoir dialoguer ou pas avec les consommateurs. Un exemple tout simple. Actuellement, un des grands groupes d'électroménager français nous a confié une mission sur le lien entre spiritualité et alimentation, parce qu'ils observent en fait une déformation de la consommation alimentaire au travers du cru et des jus, alors qu'on vient d'une civilisation dans laquelle nous, on mangeait plutôt des pot-au-feu. Enfin, moi, je parle parce que j'ai 53 ans, donc j'ai mangé des pot-au-feu dans ma vie. Et inversement, on se pose énormément de questions sur notre propre pratique à l'intérieur des entreprises. Un des grand truc à émerger dans les dernières années, c'est tout ce qu'on appelle l'expérientiel. C'est-à-dire que la consommation, en particulier la consommation de luxe, pousse de plus en plus vers l'expérientiel, puisqu'en fait, on a tout acquis, on n'a plus besoin d'objets, en quelque sorte. Donc, on va avoir, dans notre vie propre, le besoin d'expérimenter des nouvelles choses à titre humain. Et à cet égard, il est clair que les sciences dures ont du mal à répondre, et qu'en revanche, je ne les qualifierais pas de sciences molles, mais de sciences humaines.
Non, surtout pas, non.
Surtout pas, ont beaucoup de choses à dire. Ont vraiment beaucoup de choses à dire.
Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas former les futurs cadres pourquoi pas les avoir intégrés dans les formations marketing aussi de la philosophie? Est-ce que du coup, il ne faudrait pas aller chercher, implanter le philosophe un peu partout dans ces strates, sans forcément former des philosophes à l'entreprise, mais plutôt former tout le monde de l'entreprise à la philosophie?
Alors, c'est en cours.
D'accord.
En fait, non seulement c'est en cours à l'intérieur des entreprises qui s'intéressent de plus en plus à ces sujets, le philosophe a ceci de très particulier. Alors, moi-même, je ne suis pas philosophe, je tiens à le dire parce que j'ai trop de respect pour eux pour pouvoir prétendre l'être. Mais le philosophe a ceci de particulier qui, c'est le roi des sciences humaines. C'est-à-dire qu'il concentre, en fait, l'ensemble des sciences humaines au travers d'une pensée qui va confronter ensuite à des pensées qui ont été élaborées depuis 6 à 8 000 ans. Donc, c'est un grand sachant, on va le dire comme ça. Et à l'intérieur des entreprises, voire même dans les écoles de commerce, j'ai dîné hier soir avec la responsable à HEC de tout ce qui se passe en ce moment sur la transformation du monde, entreprise et pauvreté, le social business, toutes ces grandes voies de création d'emplois et de création d'activités auxquelles on assiste en ce moment, on est en ébullition économique. Hein. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut voir dans un certain nombre de journaux et de radios, la France n'est pas du tout en retard sur l'innovation à la création d'emplois, à la création d'entreprises, et énormément, qui plus est, dans le domaine de ce qu'on appelle le social business, c'est-à-dire comment répondre à un besoin social avec les nouvelles technologies et les nouvelles formations. Donc les écoles de management se sont mises sur les rangs, les écoles d'ingénieurs elles-mêmes se mettent sur les rangs parce qu'elles s'interrogent sur l'impact de l'ingénieur sur la planète, sur l'humain, qu'est-ce qu'on va faire des nanotech, de quelle manière est-ce que sauvegarder des cerveaux va ou pas transformer la société, de quelle manière est-ce que les robots vont nous envahir ou pas, de quelle manière les machines sont en train de prendre la place de l'homme dans tout le secteur productif. Donc, que va devenir l'homme? Et toutes ces questions qui sont derrière ça créent en fait une double tension. Il y a une tension d'efficacité économique du point de vue de la production, dans lequel la réponse est « je pousse l'homme dehors », et il y a une réponse d'efficacité économique du point de vue de la consommation, c'est « quel est cet humain consommateur qu'il va falloir que je séduise pour pouvoir vendre mes produits ?» Parce qu'on a toujours des fournisseurs et des acheteurs. Et là-dessus, la philosophie apporte des réponses qui sont des réponses beaucoup plus lourdes que ce qu'on peut supposer, en particulier sur « que veut l'humain ?» Qu'est-ce qu'il va être et que veut-il? Et on apporte des réponses, alors qu'ils ne sont pas toujours des réponses très agréables pour les...
Ah bah oui, ça ne fait pas toujours du bien la philosophie non plus. Hein.
Voilà.
Alors du coup...
Si ça fait pas mal, c'est pas bon.
C'est vrai, effectivement. On peut s'interroger quand même sur ces deux philosophies, parce qu'il y a quand même une séparation, je pense, qui demeure et qui peut encore demeurer longtemps entre la philosophie, la noble philosophie, celle qu'on enseigne à l'université, celle où on travaille sur Kant, où on lit dans le texte, etc. Voilà. Et puis l'autre philosophie... Non, enfin, c'est quand même... il y a quand même... Vous connaissez un peu le monde universitaire. On connaît un peu les chapelles universitaires aussi. On voit très bien qu'il y a quand même le philosophe qui n'a pas très envie d'être délogé et qui n'a pas forcément envie de descendre dans l'agora pour s'interroger, en tout cas de travailler avec les gens du monde.
Détrompez-vous. Oui. C'est une image qui est assez passée et je répondrai rapidement avant de laisser la Thalienne reparler de ça, mais On a un vrai accueil à l'intérieur de l'université. Ce que vous décrivez, en fait, ce n'est pas tant la philosophie versus le philosophe versus le reste du monde. Ce que vous décrivez, c'est les endroits fermés type université ou qu'importe, et le reste du monde. Et comme tout endroit fermé, protégé, il a ses propres règles. Enfin, la Sorbonne a quand même 800 ans, donc c'est quand même une vieille dame très vénérable. Moi-même, qui ai une barbe blanche, ça ne m'empêche pas d'aller dans les entreprises. Donc je crois que l'appétit est là, et on a besoin de philosophes qui restent des philosophes, je dirais, fondamentaux. De la même manière que dans la recherche, on a besoin de gens qui font de la recherche fondamentale à tous les niveaux de la réalité. Et c'est dans cet échange et dans cette inversion qu'on va trouver des solutions, des outils qui vont nous permettre d'interroger le monde. Nathalie, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors oui, donc pour rebondir un petit peu à ce qui a été dit, donc étant moi-même, sachant que j'ai eu une formation de philosophe à la Sorbonne pendant, maintenant ça va faire 5 ans.
Donc tout à fait classique.
Voilà, tout à fait classique, mais entre-temps aussi j'ai fait des lettres modernes, donc en fait j'ai une sorte de double formation. Mais c'est vrai aussi que, enfin je pense pas qu'il faut séparer en fait la philosophie et le monde de l'entreprise, bien au contraire, il faut pouvoir vraiment concilier les deux, et je pense aussi qu'il y a vraiment un besoin en fait du philosophe, de pouvoir se plonger en fait dans le monde et de mettre en fait tout le savoir qu'il a pu avoir pendant ses années d'études, et en fait pour qu'il puisse vraiment mobiliser ce savoir et le mettre à contribution pour l'entreprise. Et je pense que c'est un peu ce qu'on fait à Etirès en fait.
On va revenir sur votre formation et votre parcours aussi au sein d'Etirès juste après une petite pause musicale. Soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Until the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. You can joke with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Like all the folks on the hill.
If you want to be a hero, well, just follow me.
Working Class Hero de Green Day. Vous êtes toujours dans Déshabillez-moi sur Radio Campus Paris.
Déshabillez-moi.
Et je suis toujours en compagnie de Sébastien Descours et Athalie Anne Vandatour.
Vandatour,
oh là là.
C'est pas grave.
Alors bah justement, on était en train de discuter avec vous un peu de votre arrivée dans ce master ETIRES. Alors moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous a conduite à choisir ce master après un master de philosophie classique et des lettres contemporaines? Qu'est-ce qui vous y a attiré et qu'est-ce que vous y trouvez finalement que vous n'auriez pas pu trouver ailleurs?
Après ma double licence, j'ai décidé en fait de me spécialiser plutôt en philosophie plutôt qu'en lettres modernes. Et donc je me suis lancée dans un parcours philosophie et société parce que je voulais vraiment qu'il y ait... Je m'intéressais à des questions beaucoup plus actuelles en philosophie plutôt qu'à la tradition en fait de savoir que nous inspire la Sorbonne. Et c'est en faisant des recherches en fait sur la possibilité d'un métier que je pouvais exercer ou une formation que je pouvais faire, que je suis tombée sur le master ETIRES. Et c'est vrai que je ne me destinais pas à devenir, par exemple, professeur de philosophie ou me lancer dans des concours de la fonction publique, etc. Et c'est vrai que j'ai trouvé cette formation attirante, mais aussi innovante, en fait, justement par la pratique, en fait, la mise en situation du philosophe au monde de l'entreprise. Ce que je gagne aujourd'hui, déjà, il y a une nouvelle façon en fait de voir les choses, une nouvelle façon de voir le monde. C'est-à-dire que quand nous sommes vraiment plongés, au cœur, comme le disait Sébastien, donc au cœur de l'entreprise, et qu'on répond vraiment à une mission réelle en tant que philosophe, donc ça c'est quand même assez important. Il y a toujours cette étiquette de philosophe qui nous colle toujours. C'est pour ça aussi qu'il faut faire vraiment preuve d'humilité, parce que le philosophe au sein de l'entreprise, il y a beaucoup de préjugés qui lui sont associés.
C'est-à-dire par exemple?
Généralement, pour le dire gentiment,
allez-y.
On va dire que bon, quand on est philosophe, les personnes qui s'adressent à nous ont tendance à faire attention un petit peu à leurs propos. Ils ont peur d'être jugés en pensant qu'on va analyser leur discours, à se dire je dois employer tel mot plutôt qu'un autre, alors qu'en réalité on n'a pas du tout cette position de jugement, loin de là. On cherche vraiment plutôt à comprendre en fait pourquoi est-ce que, par rapport à un sujet, en fait, vraiment à comprendre pourquoi est-ce que c'est une pensée qui est privilégiée plutôt qu'une autre. Et en fait, on s'intéresse vraiment à l'éventail des... à toutes les possibilités, quoi. En fait, c'est comme si on essaie de se mettre à la place de l'autre et ne pas réfléchir sur son spectre. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous me suivez.
Je suis très bien. Quelles sont, par exemple, comme ça on peut être un peu plus concret, peut-être on pourra pouvoir comprendre un peu le mécanisme. Mmh. Quelles sont les missions, par exemple, que vous avez choisies cette année et sur lesquelles vous allez travailler?
Alors,
vous avez et allez, puisqu'il y en a deux cette année, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Donc la première est déjà passée. Donc le premier semestre, j'ai travaillé avec une grande ONG qui s'appelle Ashoka. On était dans une équipe de quatre. Et en fait, on a eu... En fait, voilà, comment se déroule la mission? C'est-à-dire que nous avons un ou des porteurs de mission qui nous proposent en fait... qui nous propose pas un sujet, mais disons une problématique, quelque chose qui les tient à cœur, une réflexion personnelle. Et ensuite, nous, on a la charge de s'approprier cette réflexion et de rencontrer en fait différents acteurs pour pouvoir en fait répondre à ce problème et par la suite essayer de proposer des recommandations par rapport à cette première problématique.
D'accord. Donc, par exemple, dans un cas concret, c'était quoi la problématique et comment vous avez essayé de résoudre les questions posées par l'employeur, le chef de mission?
D'accord. Alors, pour Ashoka, c'est-à-dire qu'Ashoka passe par un changement d'échelle, en fait. Et donc, Ashoka, c'est une ONG qui promeut l'entrepreneuriat social et solidaire en sélectionnant ce qu'elle appelle des entrepreneurs sociaux, qu'elle appelle des fellows. Et donc, à partir de ça, en fait, si vous voulez, Ashoka réfléchissait à une formule qui s'appelle « Everyone a changemaker », chacun acteur du changement. Et nous, nous étions en fait invités à penser cette formule et à voir comment est-ce qu'elle pouvait s'appliquer dans la société française. Donc ça, c'était un petit peu, de manière très simple, la première demande. Bien sûr, il y avait d'autres enjeux, etc. Donc c'est ce qu'on a explorer tout au long de la mission en rencontrant tous les acteurs de l'écosystème d'Ashoka. Et en fait, à la suite de ça, on a proposé des recommandations à Ashoka en réinjectant en fait un peu plus de sens et de contenu à la formule Everyone a Changemaker.
D'accord.
Voilà.
Donc, l'idée, c'est qu'ils vous écoutent et qu'ils essaient de mettre en place quelque chose qui ressemble à ce que vous leur proposez, c'est ça ?
Tout à fait. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'ensuite, on produit un rapport d'environ 25 pages qu'on soumet ensuite aux porteurs de mission et ensuite qu'on diffuse à toutes les personnes qu'on a rencontrées pour que vraiment chaque personne puisse aussi s'approprier notre travail.
D'accord. Alors, j'imagine que tout ça, finalement, a aussi un intérêt, c'est celui de la professionnalisation et donc de trouver un emploi, parce qu'il est quand même difficile aujourd'hui pour les jeunes étudiants de trouver finalement des emplois. L'emploi est un peu dévasté pour les jeunes, surtout quand on sort de sciences humaines avec un master 2 de philosophie, par exemple, c'est quand même pas évident. À part l'enseignement, on a peu de voix. Comment j'imagine, Sébastien Descours, que la question de la professionnalisation aussi était nécessairement inclue dès le départ dans la création de ce master ?
Oui, c'est notre promesse. Pour le
D'accord,
coup,
c'est une promesse.
C'est notre promesse. Alors, on s'est lancé dans cette formation de manière volontaire, bénévole. C'est-à-dire qu'il y a une centaine d'intervenants qui vont encadrer effectivement la vingtaine d'étudiants. C'est-à-dire qu'on est, on est extrêmement nombreux en fait, autour de ces étudiants pour les accompagner. Et dans les constats qu'on a fait très rapidement, c'est qu'effectivement... Enfin, moi, je porte une vraie conviction que le monde va aller vers l'entrepreneurship. C'est-à-dire qu'on va être acteur et constructeur de sa propre vie, même si on est salarié. Mais qu'on n'est plus dans une situation où on doit répondre à une demande, mais on doit créer une offre. C'est-à-dire qu'on doit aller vers l'autre en disant « voilà ce que je peux faire pour toi ». Et donc, c'est tout ce qui sous-tend véritablement les formations complémentaires qu'on va apporter donc, à ces étudiants. On les forme, par exemple, à la prise de parole en public. Vous voyez qu'Ateliane, aujourd'hui, est formée à la prise de parole à la radio.
Parfait.
on les forme également à la rédaction de CV. On les forme à la rédaction de PowerPoint et d'outils de présentation. On les met systématiquement en situation. Les jurys sont des jurys qui sont composés d'à peu près 100 dirigeants. Donc, c'est qu'ils doivent appréhender la manière de parler à 100 dirigeants pendant 20 minutes, pas 19, pas 21, 20. Ils ont ensuite à subir un feu roulant de questions qui n'est pas toujours facile à gérer. Et ensuite, ils doivent recevoir les critiques. Donc, ils sont très entraînés. Et pour ça, il y a en fait un concept extrêmement simple, c'est qu'il faut que ce soit réel. Parce que quand c'est réel, effectivement, les étudiants se dépassent. C'est-à-dire que c'est une vraie question qui est posée par une vraie personne pour une vraie organisation et qui va être présentée devant une vraie assemblée de vrais dirigeants. Et donc, dans ce cas-là, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on est obligé d'y aller. Alors on a la trouille, on a la trouille, on bégaye, on oublie, c'est pas toujours propre, c'est pas encore complètement professionnel, mais néanmoins ça oblige à se dépasser. Et ce dépassement de soi fait qu'après ça a une conséquence qui est complètement simple, c'est qu'on a plus peur. Donc on peut aller vers l'autre parce que la peur est tombée. Et donc du coup on peut rencontrer l'autre dans sa vérité et on peut rencontrer l'autre et effectivement construire avec lui. Ce qui fait que du coup la professionnalisation devient une totale évidence. Aujourd'hui sur les anciens qu'on suit, j'en ai 4 qui ont créé des entreprises, j'en ai à peu près 50% qui sont salariés, j'en ai aussi beaucoup qui sont en doctorat à l'intérieur d'une entreprise, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les programmes CIFRE. Donc pendant 3 ans, ils sont payés par l'entreprise pour explorer jusqu'au bout un sujet donné. Ça peut être la biologie synthétique, donc tout ce qui est vie synthétique, vie créée par l'homme. Ça peut être par exemple l'éthique de l'internet, donc j'ai un doctorant qui travaille depuis 3 ans là-dessus, etc., etc. Donc ce qu'on voit, c'est que il n'y a pas de parcours tracé, ça c'est clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voie royale à la sortie des tirs. Par contre, il y a une infinité de possibilités de création et d'apport de valeur à l'ensemble des organisations qui ensuite vont les accueillir et qui les accueillent aujourd'hui massivement. C'est-à-dire que moi, j'aimerais arriver grosso modo à 5 stages par étudiant. C'est-à-dire qu'on est 5 propositions de stage par étudiant sur une année. On est aujourd'hui à 3 propositions de mission pour une mission retenue, ce qui est déjà, on est déjà en excès d'offres. Sur les stages, on arrive à peu près à 2 à 3 maintenant par étudiant. On est également en excès d'offres et je voudrais que ça se passe, effectivement, que ça continue ensuite sur le reste de leur carrière. Et puis, je reviens à mon terme principal, ce sont des virus. C'est-à-dire que moi, je forme, en fait, c'est une boîte de Pietri. Dedans, il y a des philosophes qui se convertissent, qui ensuite vont inonder le monde et dire « oui, penser, c'est joyeux, penser, c'est bien, penser, c'est agir, penser, c'est nécessaire, penser, c'est absolument nécessaire » et qui vont porter cette exigence-là dans un cadre de démocratie et de liberté de la personne. C'est-à-dire qu'ils apprennent la liberté, ils apprennent à apprendre et à transmettre cette liberté. C'est-à-dire que la liberté, c'est quoi ? C'est comment je me construis, moi, de manière consciente, comment je construis mon organisation de manière consciente. Et c'est ça qui porte après. Alors, bon, c'est des petits quentons encore, hein. Ils sont parfois un peu maladroits, ils font coin-coin, mais globalement, ils ont un impact immédiat qu'on mesure effectivement par l'ensemble des offres et des gens qui souhaitent pouvoir collaborer avec eux, et non pas les utiliser ou les employer, mais vraiment collaborer avec eux. Et c'est ça où... C'est un des deuxièmes grands enjeux de cette formation, c'est qu'on rééquilibre véritablement la relation employeur-employé ou fournisseur-prestataire de services.
Donc là, ce n'est pas de la prestation de service, mais c'est effectivement un travail collaboratif sur une question.
D'accord. En fait, c'est-à-dire que bon, là, ça paraît très théorique, etc. Mais en fait, j'aurais vraiment essayé de faire comprendre, en étant moi-même étudiante en fait du master et tirée, en fait à quel point quand on rentre dans le master vraiment et quand on, enfin là je suis pas, j'ai pas encore fini mais je suis à la moitié on va dire, je suis plus proche de la fin que du début. En fait, on voit déjà cette évolution en fait et on sent vraiment que on a une autre façon de penser, une autre façon aussi d'agir et c'est vrai aussi que cette dimension on est constamment plongé dans le réel en fait et comme en fait c'est la réalité, donc en fait on est obligé de faire et c'est ça vraiment qui nous forme en réalité. C'est-à-dire par exemple pour le jury, bon, parler devant 100 dirigeants, voilà, c'est pas évident, on est obligé de le faire ou mener un entretien, c'est pas évident non plus, on est forcément obligé de le faire et c'est vraiment en agissant qu'on acquiert les outils, les compétences. Et c'est vrai aussi que, comme ça a été précisé au début, je suis aussi déléguée de formation, et de la formation Etires avec Rudolf et James, donc deux de mes autres camarades. Et c'est vrai que là aussi, en étant déléguée, on acquiert aussi d'autres compétences qu'on n'aurait jusque-là pas soupçonnées, en fait.
D'accord, tout le monde aura envie de s'inscrire à ce master. Comment vous allez faire ? Parce qu'il y a un vrai accompagnement, donc s'il y a trop de monde, j'imagine trop d'étudiants, ça ne va pas être possible de gérer et d'accompagner aussi bien tous ces étudiants.
Alors,
créer des postes à l'université, c'est bien.
Alors, on peut créer des postes à l'université. On a le projet, on réfléchit à un projet de chaire qui permettrait effectivement de faire une suite à ETRS, c'est-à-dire de pouvoir financer de la recherche privée à l'intérieur donc, des entreprises et des organisations. On a un projet de démultiplication de la formation dans d'autres endroits, puisque tout est très normé et aujourd'hui on peut former des gens pour effectivement diriger ce genre de choses. Et pour tout ça, on a créé une association à côté qui s'appelle Philosophie Action. Et Philosophie Action, en fait, est une plateforme de projets pour développer tout ce qui trait à la philosophie action, donc ETRS en premier. Et à l'intérieur de cette association, par exemple, il y a un sujet qui s'appelle la pausephilo.fr qui a été fait par 4 anciens qui toutes les semaines délivre une pensée philosophique relativement simple d'ailleurs, qui se lit en une dizaine de minutes, et puis des choses plus complexes après qu'on peut trouver sur le site. On a un projet qui s'appelle « D'un monde à l'autre » pour déconstruire les préjugés avec une fille que vous connaissez peut-être qui s'appelle Aya Sissoko, qui est championne du monde de boxe. Hein. On a un projet de faire des rendez-vous une fois par semaine. On voudrait prendre une page, enfin c'est la demande actuelle d'un grand magazine féminin une fois par mois, pour pouvoir s'exprimer effectivement sur la philosophie. L'idée, c'est que la philosophie, certes, on peut avoir des barbes blanches, habiter de la grande tour, et j'adore ça, mais la philosophie, fondamentalement, c'est quelque chose que tout le monde doit pratiquer, du plus jeune âge jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est une joie et c'est une nécessité absolue.
J'espère que les auditeurs vous ont entendu. En tout cas, on fait une petite pause musicale et puis on vous retrouve juste après.
Hier et demain sont la même journée, la boucle est bouclée. Rappelle-moi d'arrêter la musique avant d'aller me coucher. Je mets 6 mois pour écrire des couplets que personne va écouter. La seule personne qui crie mon nom c'est mon père quand je suis bourré. Cigarette sur cigarette dans une bouteille sans fond, je fais pas de nouvelles chansons. On fait des tours de périph', des tours en ville, des tours à la Fnac, en bref on tourne en rond. J'attends un signe extraterrestre, j'attends qu'on vienne me dire toute ta vie n'est qu'un grand mensonge. Pendant que mon patron pousse à souiller tous mes principes, mais c'est mon job, je passe l'éponge. Et on se détruit la santé pour se sentir en vie. Je suis moins petit, je suis plus vieux, mais j'ai jamais grandi. La plupart des choses dont rêvent les gens d'ici me feraient mourir d'ennui. La plupart des choses dont rêvent les gens d'ici me feraient mourir d'ennui.
J'essaie de faire de mon mieux. Et je m'ennuie quand tout devient sérieux. En partant, je leur dis droit dans les yeux. J'aurais dû
j'avais des rêves, maintenant j'ai des regrets. Contrairement aux vieilles bourses de ma vie, je serai peut-être jamais refait. Je m'ennuie tellement, je mate la barre de téléchargement défilé. Des fois je sors dans des boîtes pourries où je rêve de tabasser c'est le DJ. Si j'écrivais des chansons d'amour, ce serait pour dire qu'ils n'existent pas. Je fais semblant d'écouter personne, mais c'est seulement parce que j'ai peur de ce qu'ils disent de moi. Tout le monde me dit que je finirai par changer, j'ai du mal à comprendre comment ils peuvent y croire. Alors que je suis même pas capable de changer une ampoule, ça fait 6 mois que je pisse dans le noir. J'ai les fantasmes d'un ado et l'aigreur d'un petit vieux. Tout ce que je voudrais, c'est trouver un juste milieu. Je mens surtout à moi-même quand je répète que j'essaye de faire de mon mieux. Je mens surtout à moi-même quand je répète que j'essaye de faire de mon mieux.
J'essaie de faire de mon mieux. Et je m'ennuie quand tout devient sérieux. En partant, je leur dis droit dans les yeux.
Une place tous un rang, j'ai pas dû recevoir leur putain de plan. Allez leur dire que c'est plus marrant. J'aimerais bien comprendre le truc maintenant. C'était censé durer juste un temps. Bientôt des piges que j'ai plus 20 ans.
J'essaie de faire de mon mieux. Et je m'ennuie quand tout devient sérieux.
J'essaie des casseurs flotteurs. Vous êtes toujours dans Déshabillez-moi sur Radio Campus Paris.
Déshabillez-moi.
Alors on continue cette discussion autour du master Étiresse avec nos deux invités. On a quand même pas mal discuté sur la manière dont se déroule finalement ce master, ce qu'on y cherche, ce qu'on y trouve avec vous, Nathalie. Moi, du coup, maintenant, j'ai envie de m'interroger sur la question de cette relation que vous créez, ces ponts que vous lancez entre la philosophie et le monde de l'entreprise, entre l'éthique et le monde de l'entreprise. Alors c'est vrai qu'on a tendance à considérer que l'entreprise, c'est un peu difficile hein, de le définir comme ça, mais quand on va le faire grossièrement, on a un peu l'hypercapitalisme d'un côté, puis les gentils philosophes de l'autre, et qu'on a du mal à comprendre comment les uns et les autres pourraient fonctionner et travailler ensemble. On a même, il y a une émission, on va écouter un petit extrait qui est assez atroce sur la manière dont on devrait essayer de comprendre l'entreprise et dont l'entrepreneur doit finalement prendre la place de ses employés pour imaginer ce qu'ils vivent au quotidien et peut-être changer son regard sur l'entreprise et sur ce que vivent les employés. On va juste écouter un extrait, on en reparle après, puis on va essayer d'imaginer donc cette question, cette relation entre le philosophe et l'entreprise.
La crise économique a creusé le fossé entre patrons et employés. Pour faire évoluer l'image de l'entreprise, certains patrons sont prêts à prendre des mesures exceptionnelles. C'est une expérience inédite et incroyable. Un patron va redescendre en bas de l'échelle et travailler une semaine dans son entreprise incognito. Ce patron, c'est Nicolas Richer. Il est à la tête d'une des plus grandes chaînes de restauration rapide en France. Le patron va abandonner son statut de PDG et son confort de vie pour devenir un simple apprenti dans son entreprise. Pour passer incognito parmi ses employés, il va se métamorphoser et changer d'identité. Pendant 4 jours, il sera un patron sous couverture. Il va apprendre un métier par jour et sera formé par 4 salariés différents, mais ils ne savent pas que c'est leur patron.
Je te coupe, n'hésite pas. Tu passes pour un débile, pour un remué, c'est pas grave.
Le problème, c'est comme tu as passé trop de temps sur un client, on n'a plus le temps de rien faire. Donc là, maintenant, il faut vraiment accélérer.
Okay,
on ouvre.
Incognito, le patron va découvrir ce qui se passe vraiment sur le terrain.
C'est la première fois qu'on m'explique aussi clairement ce qu'il faut faire le matin.
Certaines choses vont le déstabiliser.
J'arrive pas à passer des formules.
D'autres l'excéder.
Bien, il est roi, mais pas moi. C'est pas mon roi, moi.
Il va devoir se surpasser. être dirigé par ses propres salariés.
Il avait rien compris. En fait, je t'avais dit de mettre...
Tout ce qui est emballé en haut, et j'ai fait le contraire.
Voilà, t'as fait l'inverse.
Mais il va aussi découvrir leur vrai visage.
À très bientôt. Merci à toi, en tout cas.
Bonne soirée. Bon courage à toi. Ciao, ciao.
À la fin de l'expérience, il va révéler sa véritable identité.
C'était Incognito sur M6. Alors bon, c'est un programme qui est quand même particulier. Puis alors là, on sent bien le côté énergique de la chose avec cette musique derrière un peu. Et puis le suspense qu'on est en train de créer. Donc un patron qui va travailler dans son entreprise. C'est quand même pas mal. Incognito, voilà. Donc c'est l'idée. Alors est-ce qu'il faut passer par là pour réhabiliter un dialogue et une compréhension entre les employés et leur patron? Est-ce qu'il faut créer du lien à travers nécessairement ce type de subterfuge et de choses? Ou est-ce qu'on peut au contraire faire plus simplement? Sébastien, qui veut répondre à Taliane?
Je viens commencer. Donc, je pense aujourd'hui que, il faut arriver en fait à dépasser, si vous voulez, le stade où il y a le patron d'un côté, l'employé de l'autre. Et je pense pas en fait que, le fait que le patron puisse prendre la place de l'employé va lui faire voir en fait spécialement les choses différemment et qu'il faut, arrêter de penser ce clivage juste entre les grands patrons d'un côté et les employés de l'autre. Le rôle, en fait, si vous voulez, du philosophe par rapport à ça, et en fait, le fait qu'on soit plongé dans l'entreprise, c'est essayer de réconcilier un petit peu ces clivages, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu redonner du sens et faire en sorte qu'on ne soit plus dans une...
Un rapport hiérarchique entre le grand patron en haut et le reste en bas, c'est à peu près ça que vous voulez dire?
Oui, c'est à peu près ça.
Je crois qu'on est en 2016, donc présenté avec une musique guerrière, la présence du patron chez les employés, pour moi, est quand même un truc de journaliste, certes, qui excite l'attention, mais qui n'est pas très réel.
C'est journaliste en réalité, puisque c'est pas du tout un truc de journaliste, c'est un truc de
grande mettre la musique de Game of Thrones sur une petite histoire, excusez-moi, moi je trouve que c'est un truc de journaliste. Alors pourquoi? Parce que d'abord, on est quand même dans un monde qui rentre avec la numérisation sur la fin du hiérarchique. On est en train de tuer le vertical, on tue le hiérarchique. On voit bien que le hiérarchique ne marche quasiment plus nulle part. Même, on ne veut plus être petit chef, parce qu'être petit chef, c'est d'abord avant tout être au service des autres, et c'est un peu lourd à porter dans un monde qui est un peu complexe. D'abord, ensuite, on a une deuxième très grande problématique, c'est qu'en fait, l'affrontement n'est pas entre patron et employé, parce que tous les deux travaillent. L'affrontement est entre ce que j'appellerais la rente et l'activité. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui possèdent et qui ne font rien pour recevoir de l'argent, ni talent, ni travail, ni énergie. Ceux-là sont clairement dans un camp donné. Et de l'autre côté, l'immense majorité des citoyens de cette terre, eux, sont tous les matins au boulot. Ils y vont, ils ont envie de créer, ils ont envie de faire bouger les choses, ils ont envie d'avancer. À l'intérieur de tous ces citoyens, il y a un mode d'organisation qui est un mode d'organisation des êtres vivants que sont les entreprises ou les associations ou les partis politiques ou les administrations, puisque c'est valable partout. Et ce mode d'organisation a été hérité, grosso modo, de l'ère napoléonienne. C'était vertical et hiérarchique. On est en 2016, on est numérique et horizontal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être patron, c'est avant tout assumer une responsabilité et une compétence qui est celle de pouvoir décider et d'assumer la décision. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de prendre des décisions et il faut que ce soit une personne qui prenne la décision. On voit bien d'ailleurs à quel point, quand ils prennent des décisions, ils peuvent s'en prendre plein la figure. Un petit maire d'une petite commune perdue au fin fond de la France qui voit un panneau de basketball tomber sur un des gamins qui est en train de jouer se retrouve en prison. Donc c'est ce type de responsabilité-là qu'on met derrière l'étiquette patron. Mais moi, je rejoins complètement Ataliane pour dire qu'aujourd'hui, patron, c'est une fonction. Ça n'est pas une identité, ça n'est pas une manière de manifester qu'on est supérieur à l'autre, c'est juste une fonction à l'intérieur d'une organisation qui est nécessaire. Moi, je suis patron des tirés, j'exerce cette fonction et je ne crois pas à aucun moment, d'ailleurs on m'a beaucoup posé cette question-là, je n'ai pas de pouvoir sur l'autre, j'ai de l'influence mais je n'ai pas de pouvoir. Et je dois prendre des décisions et c'est à moi c'est sur moi que repose cette prise de décision. Alors, et le monde qui s'en vient... Ce monde entrepreneurial qui s'en vient est un monde qui plus est, qui va fonctionner de plus en plus en mode projet. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée, un projet, on va avoir envie de développer quelque chose et on sait qu'on aura besoin d'un CTO, quelqu'un qui saura développer de l'informatique. On sait qu'on aura besoin de quelqu'un qui va nous faire du design. On sait qu'on va avoir besoin de quelqu'un qui saura faire du marketing, de la communication et tout, et de quelqu'un qui organise tout ça et qui à un moment prend des décisions qui sera ce patron. Il n'y a plus cet affrontement et c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que les syndicats ne sont très majoritairement composés de retraités sur leurs adhérents et ils sont absents Et c'est d'ailleurs un des vrais problèmes, sont absents du dialogue social, alors que chacun a sa place pour autant qu'il veuille l'occuper. Et c'est ça qu'on essaye de déclencher, c'est de dire, vous avez votre place, allez la chercher, et allez construire votre place, et construisez ça, pas tout seul, mais construisez ça avec les autres. Et passez dans un mode créatif, créateur, constructeur, plutôt que d'être dans un mode soumis. Le salariat, c'est quoi ? C'est une hiérarchie, c'est une soumission hiérarchique rémunérée. Il y a le terme soumission à l'origine. Ouais. Et cette soumission à l'autre, aujourd'hui, est quelque chose qui, en 2016, n'est plus possible. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup grandi, on s'est beaucoup formé. Le QI global des citoyens de cette terre a augmenté de 30 points en 30 ans. Ça veut dire qu'on est face à des gens intelligents et qu'aujourd'hui, on ne construit plus les mêmes choses que comme on les construisait il y a 200 ans.
En tout cas, dans la description du master qu'on peut retrouver sur Internet, sur le site de Panthéon Sorbonne, voilà, on va le dire comme ça. Alors, il y a cette volonté, vous le dites, de concilier les impératifs d'efficacité et le souci des valeurs et des finalités qui est devenue une exigence incontournable pour les organisations publiques et privées. Alors, bon, bien sûr, il y a cette question des valeurs qui, effectivement, est importante. Pour les entreprises, pour l'opinion publique aussi, hein, évidemment. Tout le monde s'interroge sur les valeurs. On a vu des entreprises, bon, j'ai pas le droit de citer de marque normalement, mais comme Starbucks, qui se sont fait attaquer parce qu'ils ont refusé de payer des impôts en France et qu'on leur dit bah, peut-être que le meilleur engagement que vous pouviez faire, c'est quand même de payer vos impôts en France. D'Amazon, qui se font attaquer et boycotter parce qu'ils maltraitent leurs salariés et refusent aussi de payer leurs impôts dans les territoires où ils sont implantés. Mais du coup, on se dit quand même que la grande valeur principale pour l'instant, c'est encore celle de l'argent et que finalement ben, il va encore avoir pas mal de boulot avant de se dire qu'il y aura d'autres valeurs que celle de l'argent qui doit primer dans l'entreprise, non ?
C'est une valeur très éphémère, l'argent, c'est qui plus est, ça n'est pas une valeur, c'est un mode de... C'est quelque chose d'extrêmement fongible qui permet à la société de tourner, c'est-à-dire que ça permet l'échange entre les personnes. Le fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est comme avoir beaucoup de barils de pétrole dans son jardin, ça n'intéresse pas grand monde en fait. L'argent, il est là pour aider le projet, l'aider à faire grandir, etc. La hiérarchie sociale d'ailleurs, parmi nous, hein, aujourd'hui, n'est de moins en moins basée sur l'argent. Vous n'allez pas passer vos vacances avec quelqu'un qui est pété de thunes, mais qui est très ennuyeux, alors que vous emmènerez très volontiers un artiste sublime et qui fait des choses incroyables, mais qui est complètement fauché. Et donc cette hiérarchie sociale...
Ça dépend quel jour de vacances on a envie de passer.
Ça a été décrit dans Maslow. Ce qu'on voit, c'est que plus on monte en fait dans l'évolution de l'être humain, plus on va aller vers des choses, on va mettre de la valeur sur la pensée, sur l'expérience, sur la rencontre à l'autre, etc. L'argent, encore une fois, c'est un carburant. On en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. On a besoin d'argent pour faire tourner les choses. Mais on n'a pas besoin de tant d'argent que ça. Moi, j'accompagne extrêmement beaucoup de projets qui sont aujourd'hui pas forcément financés, dont Etirès, d'ailleurs, qui est très peu financé.
D'ailleurs, c'est vrai, on n'a pas énormément de moyens. Mais justement, c'est quelque
ça,
chose
c'est l'université en général. Mais...
Oui, mais on a 100 professionnels qui ont décidé de s'impliquer. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais on a tous ces professionnels qui arrivent avec ce qu'ils sont, leur expérience, leur réseau, etc.
Et c'est... Pardon, je te coupe. Du coup, Sébastien, c'est aussi ce qui en fait nous invite un petit peu à nous dépasser. Encore une fois, enfin là, je remobilise encore ma formation, enfin mon expérience de délégué. C'est vrai qu'au défaut, on est confronté à des situations où bon, c'est sûr que si on avait, enfin le budget nécessaire, enfin ça irait beaucoup plus vite. Mais il s'avère que bon, on n'a pas forcément toujours le budget adéquat. Donc c'est vrai que là, on doit faire preuve vraiment d'autonomie pour pouvoir justement trouver des solutions, pouvoir répondre à ces manques budgétaires et justement en fait pouvoir avoir ce que l'on souhaite et enfin pour le bien de la formation et
de l'autonomie et de la créativité. Finalement, c'est un peu à ça qu'on pousse les étudiants chez Etirès, dans le master Etirès.
Et des belles rencontres.
Des habits et moi. On va passer donc à l'entretien psy. Alors, première question que j'ai envie de poser à vous deux. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier dilemme moral, la première fois que vous vous êtes interrogé sur une question éthique, l'un et l'autre ? Ataliane.
Oui, alors ça, c'est une question qui est vraiment très, très, très compliquée. Parce qu'en fait, je crois qu'en philosophie, on a tout le temps, on est confronté, en fait, par l'exercice de pensée qu'on mène, à des dilemmes philosophiques. Mais il y en a un vraiment particulièrement qui m'a marqué, c'est, ça fait référence à Kant. En fait, c'est sur la morale déontologique, en fait. C'est-à-dire que, en gros, c'est comment arriver à dicter, en fait, les règles de nos actions. Plutôt, non, c'est la morale universelle. D'accord. En fait, en gros, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une morale qui soit valable de tout temps et qui ne fasse nullement exception.
Sébastien Descours, votre premier dilemme philosophique et moral.
Alors, morale, je ne sais pas. Je ne suis pas très morale, en fait. Mais dans mes souvenirs, si, j'ai un souvenir d'être assis sur les marches de la maison de famille où j'ai découvert l'infini. Cette espèce de vertige absolu de dire que le temps est infini, l'espace est infini et que moi, je suis là au milieu de tout ça. Et puis, les vraies premières baffes, j'habitais à Berlin à l'époque où je faisais des études et j'ai beaucoup traîné dans les pays de l'Est à l'époque. Et on était dans une culture, une société, un mode d'organisation qui était radicalement différent d'une autre, qui était très protégé puisqu'il y avait le mur qui empêchait les passages et donc les perméabilités. La télé n'existait pas, Internet n'existait pas, la radio n'était pas diffusée. Et de découvrir à quel point l'humain trimbalait des choses qui lui étaient propres des deux côtés du mur, même si ça s'exprimait de manière relativement différente en fonction des sociétés dans lesquelles était inscrite.
Qu'est-ce qui vous inquiète l'un et l'autre, l'une et l'autre, le plus dans l'entreprise d'aujourd'hui ?
C'est
Sébastien Descours.
Alors, moi j'ai un sujet sur lequel je suis assez militant, c'est ce qu'on appelle les robots tueurs autonomes. Mm-hmm. C'est la capacité de donner à une machine le fait de tuer un être humain. C'est-à-dire qu'on touche aujourd'hui aux confins en fait, de l'évolution technique et ingénieure. Et on sait que ce qu'on appelle le point de singularité va être atteint d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des machines qui seront probablement plus intelligentes que nous. Mais leur donner la capacité à tuer de l'humain, ça veut dire qu'on va créer l'espèce qui va nous éradiquer de la Terre. Et ça, je pense que c'est un combat qu'il faut absolument qu'on mène et sur lequel il faut qu'on tienne. C'est-à-dire que la réflexion doit, au niveau mondial, s'inscrire dans toutes les constitutions qu'une machine ne peut pas faire du mal à un humain, en tout cas ne peut pas faire du mal à un humain de manière autonome.
Oui, c'est ça, c'est l'autonomie.
De toute manière, un humain doit être, à un moment donné, il n'y a qu'un humain qui peut tuer un autre humain. Le jour où cette barrière morale est franchie, on crée très probablement l'espèce qui va nous éradiquer. Et après, j'ai un deuxième sujet qui est le revenu de vie, parce que je pense qu'on va être de plus en plus entrepreneurs, qu'on peut, nos sociétés aujourd'hui produisent grâce aux machines, que ce fruit de la production peut être distribué de manière un peu plus large et donner ainsi à l'humain toutes les capacités d'aller explorer les domaines de la créativité, du lien, du travail de la main. Ce qui est aujourd'hui un petit peu difficile, parce que quand on n'a plus de job, quand on n'a plus de salaire, quand on n'a plus de chômage, bah, ma foi, on a faim et du coup, on pense à autre chose.
On a d'autres préoccupations,
voilà,
effectivement.
J'aimerais bien que ce soit inscrit dans le programme présidentiel à venir.
Et peut-être qu'ils nous entendront. Nathalie Anne.
Pour répondre à votre question, je pense que... Enfin, les jeunes d'aujourd'hui, non, on a notre place en fait dans cette société. On saura aussi, enfin, plutôt que d'avoir notre place, on saura aussi créer notre place. Donc en fait, de fait, enfin, on ne peut être que positif si on part déjà sur quelque chose de négatif. Enfin, je veux dire, je vois pas comment est-ce qu'on peut avoir des perspectives d'avenir. Donc
une belle note d'optimisme.
C'est ça. Oui, mais
pour contrebalancer un petit peu.
Mais du positif, une vision positive qui soit pas naïve, pardon.
Très bien. Et dernière petite question, on a très très peu de temps pour répondre. Qui serez-vous demain, l'un et l'autre ? Demain, après-demain ou dans 10 ans ?
Demain, j'espère bien être ministre.
voilà, pas. Très bien. Et vous, Sébastien Descours, qui serez-vous demain ?
Directeur de cabinet de ministre.
C'est parfait, le rapport sera inversé, ce sera parfait. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Alors vous pourrez retrouver toutes les informations sur le master ETIRES sur le site www.sorbonne-panthéon. Enfin voilà, tapez Sorbonne Panthéon, Panthéon Sorbonne Paris 1 quelque part sur votre navigateur et puis vous retrouverez le site internet, la formation ETIRES. On peut vous rejoindre, j'imagine, à partir de septembre prochain. Ça doit être trop tard pour les inscriptions cette année.
Les recrutements vont se dérouler à peu près mi-juin, donc si vous voulez nous rejoindre, il faut faire signe rapidement.
Et puis merci beaucoup à vous deux.
Merci à vous.
On se retrouve dans un mois avec Pascal Chabot pour nous présenter et parler de son livre Chabot le robot, ou Chabot le robot, je ne sais pas trop comment on le dit, on lui demandera. À dans un mois sur Radio Campus Paris et bonne soirée.
Merci.
Merci.